Merci beaucoup, mon père, et puis merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir participer. Alors, ce que m'a demandé Éric Charmetant, et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter deux choses. La première chose, essayer de vous donner un aperçu rapide des débats ou de la manière dont a fonctionné les débats sur le libre arbitre chez les philosophes analytiques. Peut-être une remarque sur ce qu'on peut vouloir dire par analytique. Et puis, donc ça, ce sera essentiellement la première partie, une présentation historique de l'évolution des débats sur le libre arbitre depuis les années 70 ou la fin des années 60. Et puis, vous montrer ensuite quelle est la place des données neuroscientifiques, des données de neurosciences dans ces débats. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Et là, je présenterai deux choses. Un aspect sur lequel je pense que les données neuroscientifiques peuvent nous apporter quelque chose pour défendre une conception libertarienne du libre arbitre. Le terme a déjà été introduit, mais je vous le représenterai. Peut-être moins dans le cas d'une conception compatibiliste du libre arbitre, en tout cas, c'est pas ce que je présenterai. Et deuxième, je terminerai rapidement sur l'IBE pour vous expliquer pourquoi les arguments de l'IBE, enfin la prétendue réfutation du libre-arbitre dans la tradition libé, n'est pas prise très au sérieux par les philosophes analytiques, quelle que soit leur conception du libre-arbitre, d'ailleurs de présence ou d'absence du libre-arbitre. Voilà, donc je vous présenterai rapidement pourquoi il n'y a pas vraiment d'impact des données de Libet ou de type Libet ou de Haynes sur les débats philosophiques du libre-arbitre. Alors, je vais peut-être commencer. J'ai remis le tableau qu'Éric Charmetant avait déjà présenté. Enfin, c'est pas exactement les mêmes entrées, mais c'est les mêmes cases. Un tableau à double entrée, juste pour poser le vocabulaire. Il y a deux questions principales sur le libre arbitre. Une première question est savoir est-ce que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme ou est-ce qu'il ne l'est pas. Si on dit oui, il est compatible, on est compatibiliste. Si on dit non, c'est incompatible, on est incompatibiliste. Et si on est incompatibiliste, se pose ensuite la question de savoir est-ce qu'on est libre ou non. Et ceux qui disent on est libre, donc non déterminé, sont les libertariens. Et ceux qui disent inversement, on est déterminé et donc non libre, sont les déterministes durs ou je ne sais plus ce que Éric Charmetant a pris comme terminologie. Ouais, c'est le hard determinism en anglais, déterminisme radical ou fort ou dur. Alors, juste, ça c'était juste pour placer la terminologie. Ce qui est important de voir, c'est que à la fin des années 60, au début des années 70, l'état de la question, l'état des débats parmi les philosophes de tradition analytique, c'est-à-dire essentiellement les philosophes anglo-saxons, héritiers de manière plus ou moins forte de l'empirisme logique du cercle de Vienne, mais avec tout ce qu'on peut mettre de guillemets, étant donné que la plupart des philosophes à cette époque-là pensaient que l'empirisme logique de Vienne avait déjà été réfuté. Mais bon, enfin, en tout cas, dans cette tradition-là, la plupart des philosophes adoptaient une sorte de grand consensus compatibiliste, qui est hérité d'ailleurs bien au-delà du cercle de Vienne, qui est hérité plutôt de la tradition empiriste anglo-saxonne, de Hume ou de Locke, qui consiste à dire que voilà, il n'y a aucun problème de compatibilité entre le déterminisme et le libre-arbitre. Je vous ai mis une citation de Davidson qui est représentative de ce consensus des années 60-70, enfin début des années 70. Il y a des gens qui pensent être en mesure de percevoir ou de prouver que la liberté est incompatible avec la supposition que les actions sont déterminées causalement, au moins dans le cas où ces causes peuvent être tracées jusqu'à des événements extérieurs à l'agent. Je ne m'occuperai pas directement des arguments de ce genre, il n'en discutera même pas, car je n'en connais aucun qui soit plus que superficiellement plausible. Hobbes, Locke, Hume, Moore, Schlick, Heyer et Stevenson, il y a une erreur, et une foule d'autres auteurs ont fait tout ce qui pouvait être fait et tout ce dont on avait besoin pour lever les confusions qui peuvent donner l'impression que le déterminisme empêche la liberté. Donc, vous voyez, Davidson se sentait en terrain totalement conquis, ou un terrain de consensus. Il n'y a aucun argument qui ait la moindre plausibilité en faveur de l'incompatibilité entre libre arbitre et déterminisme. Juste, je voulais m'assurer que tout le monde est bien un polycopié, parce que lorsque je lis rapidement comme ça des extraits, ça pourrait être. Il y a deux ou trois polycopiés qui étaient disponibles dans le fond. Vous retrouverez les citations que je vais faire. Alors, voilà le consensus de la fin des années 60, début des années 70. La grande révolution des années 70, pour faire de manière très schématique, c'est la redécouverte ou la réinvention ou l'invention, si on oublie un peu les prédécesseurs, l'invention d'un argument incompatibiliste extrêmement fort, qui s'appelle l'argument de la conséquence, qui a été réinventé de manière indépendante par au moins trois auteurs, j'en ai mis deux ici, Peter Fanninwagen, qui est le plus célèbre, et Carl Ginet. Il semble que voilà, ils aient repensé un peu le même argument de manière indépendante les uns des autres. Je vous lis rapidement une version en langage naturel de cet argument. Donc le passé lointain, d'après cet argument, est quelque chose qui est absolument hors de notre contrôle. On ne peut pas contrôler le passé lointain. Les lois de la nature sont également des choses qui sont absolument hors de notre contrôle. Mais si le déterminisme est vrai, alors chacune de nos actions est une conséquence logique de deux choses qui sont absolument hors de notre contrôle, à savoir le passé lointain et les lois de la nature. C'est ça que dit le déterminisme, que tout état futur est une conséquence logique des lois de la nature plus le passé lointain. Mais intuitivement, les conséquences logiques de choses qui sont hors de notre contrôle sont aussi hors de notre contrôle. Donc, si le déterminisme est vrai, alors chacune de nos actions est absolument hors de notre contrôle, c'est-à-dire que nous n'avons pas de libre arbitre sur aucune de nos actions. Alors, pourquoi est-ce que ce principe est réapparu de manière très importante dans les années 70? Un facteur important, c'est la redécouverte dans les années 60, notamment par Saul Kripke, de la logique modale. D'un principe qui vaut dans toutes les logiques modales, dans tous les systèmes de logique modale normale. La logique modale, c'est la logique qui s'intéresse aux questions du nécessaire et du possible, ou du contingent. Il se trouve qu'il existe en logique modale un principe absolument fondamental sans lequel on ne peut quasiment pas faire de système de logique modale. Le principe selon lequel, lorsqu'il est nécessaire que P et qu'il est nécessaire que P implique Q, alors il est nécessaire que Q. Je vous ai donné ce principe, pas dans sa version modale, mais dans sa version appliquée au problème du libre arbitre. C'est ce que Fanninwagen a appelé la règle bêta. Si P est, alors le symbole N sur le polycopier signifie absolument hors de notre contrôle, c'est-à-dire que personne ne peut rien faire qui rendrait possible P. Si P est tel que personne ne peut rien faire qui le rende ne serait-ce que possible, alors P est absolument hors de notre contrôle. Donc si P est absolument hors de notre contrôle et si P implique Q est absolument hors de notre contrôle, alors Q est absolument hors de notre contrôle. Cette règle bêta est une version ou une application particulière du principe modal dont je viens de vous parler et qui, encore une fois, est un principe qui est commun à toutes les logiques modales normales. Autrement dit, c'est un principe qui paraît extrêmement fort du point de vue logique, indépendamment de son intuitivité sur le cas particulier. C'est-à-dire, effectivement, si c'est une conséquence logique de deux choses que je ne peux absolument pas contrôler, comment est-ce que je pourrais contrôler cette conséquence? On voit bien qu'il y a un grand caractère intuitif de ce principe en lui-même, de cette règle bêta. Voilà pourquoi l'argument de la conséquence a convaincu beaucoup de gens, ou en tout cas a été reconnu de manière consensuelle comme un argument très fort et qui méritait vraiment d'être discuté, contrairement à ce que Davidson disait, à savoir que l'incompatibilisme ne pouvait reposer que sur des confusions même pas superficiellement plausibles. Donc il y a vraiment un problème très fort auquel il faut répondre. Ce qui fait que le débat dans les années 80 a fait apparaître suite à cette réinvention du argument de la conséquence, de nouvelles positions dans le débat analytique. Donc il y a deux fronts sur lesquels des nouvelles positions sont apparues. Premièrement, sont apparues des nouvelles théories compatibilistes, notamment les livres assez influents de Daniel Dennett ou de John Martin Fisher, vous voyez, dans les années 80 ou début 90, je vous ai mis le livre de Fisher, mais les articles qui préparaient le livre sont dans les années 80. Donc ça, c'est une première chose. Je ne vais pas entrer dans les détails des différents compatibilismes. On en a parlé un tout petit peu dans la discussion sur Bergson. Il y a des compatibilismes à la type de Frankfurt. Je pense que l'important, c'est la hiérarchie, l'harmonie entre nos différents désirs. Il y a des compatibilismes qui pensent qu'on doit avoir des possibilités alternatives, mais que ces possibilités alternatives sont compatibles avec le déterminisme. Donc je ne parlerai pas de ces différentes formes de compatibilisme, mais je vous dis juste qu'il y a tout un champ de différents compatibilismes qui sont apparus comme des tentatives de réponse, au moins au départ, à l'argument de la conséquence qui posait la charge de la preuve, si vous voulez, sur les épaules des compatibilistes. Deuxième chose qui est apparue, c'est un nouveau débat entre les incompatibilistes. Parce que, comme vous rappelez, d'après le tableau que j'ai rappelé au début, si vous êtes incompatibiliste, il reste deux possibilités. Soit vous pensez que vous êtes libre et donc non déterminé, soit vous pensez que vous êtes déterminé et donc non libre. Les deux types de solutions se sont donc développées énormément dans ces années 80, avec certains philosophes qui ont défendu que, certes, le libre arbitre était incompatible avec le déterminisme, mais l'indéterminisme n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que le libre arbitre est aussi incompatible avec l'indéterminisme, de telle sorte que le libre arbitre est en fait incompatible avec tout, donc il est absolument impossible. Ce qu'on a appelé les auteurs impossibilistes. Donc vous avez Galen Strawson, là vous n'avez pas le prénom, mais c'est Galen Strawson, à ne pas confondre avec son père Peter Strawson, qui est un auteur impossibiliste. Donc c'est intéressant, c'est que quand vous êtes impossibiliste, vous n'avez pas besoin, vous pouvez rejeter le libre arbitre sans être déterministe. Vous pouvez penser que l'indéterminisme est vrai, qu'il n'y a pas de déterminisme dans la nature, et néanmoins le libre arbitre n'existe pas parce qu'il est incompatible aussi avec l'indéterminisme. Donc c'est des négateurs du libre arbitre qui ne sont pas des déterministes. Deuxième possibilité, défendre que nous sommes libres dans un sens incompatibiliste, c'est-à-dire qu'il y a de l'indéterminisme réel dans la nature. Ça, c'est les positions libertariennes sur lesquelles je vais m'attarder plus dans la deuxième partie, parce que, évidemment, quand vous dites ça, le libre arbitre requiert de l'indéterminisme dans la nature, et nous avons le libre arbitre, et bien vous êtes engagé à trouver les indéterminismes correspondants dans la nature. Et donc là, les neurosciences vont éventuellement avoir un rôle à jouer. Juste une dernière chose, puisque là, je parlais des années 80. Je fais juste une toute petite ouverture sur la suite des débats sans rentrer dans les détails des trois décennies suivantes. Mais au moins, juste pour dire rapidement ce qui se passe dans les années 90 et suivantes, c'est qu'il y a encore plus de diversification des positions possibles dans le débat et des personnes qui défendent ces positions, avec une multiplication du nombre de philosophes professionnels aussi, chacun cherchant à avoir une position qui n'était pas encore occupée dans le panel, dans l'espace logique, si vous voulez. Alors, la diversification, elle est dans deux directions au moins, sur lesquelles je mentionnerai que deux choses. La première chose, c'est l'émergence d'un nouvel argument incompatibiliste. Je vous ai dit que l'argument important, historiquement, c'était l'argument de la conséquence défendu par Peter Fanninwagen et d'autres. Petite note de publicité, l'argument de Fanninwagen est défendu magistralement dans l'essai sur le libre arbitre qui vient d'être publié en traduction aux éditions Vrin. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter si la question vous intéresse. Et il est également fait un tour d'horizon global sur tout l'argument de la conséquence et jusqu'aux débats les plus contemporains sur cet argument de la conséquence par Ghislain Legousse dans un livre qui est également paru il y a peu de temps qui s'appelle « Le pouvoir d'agir autrement ». Donc ça, c'est vraiment une synthèse de tous les débats contemporains sur l'argument de la conséquence. Et voilà. Voilà, donc les nouveaux arguments, un nouvel argument incompatibiliste est apparu qui est lié au fait que dans l'argument de la conséquence, il y avait un présupposé, si vous voulez. Le présupposé, c'est que le libre arbitre requiert le pouvoir d'agir autrement. C'est un présupposé que Ghislain Legous défend et accepte, mais qui a été mis en cause par un célèbre article de Frankfurt, non pas l'article dont on a déjà parlé, mais un autre article sur le libre-arbitre, essayant de montrer que le libre-arbitre, ou en tout cas la responsabilité morale, ne requiert pas le pouvoir d'agir autrement. Et donc, certains auteurs ont tiré une conséquence compatibiliste de cet article de Frankfurt en disant, s'il n'y a pas besoin du pouvoir d'agir autrement, du coup, le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Et d'autres auteurs, c'est le cas de Dirk Pereboom, ont dit, certes, le libre arbitre ne requiert pas le pouvoir d'agir autrement, mais il est quand même incompatible avec le déterminisme pour une autre raison, qui est que le déterminisme nous empêche d'être la source ultime de notre action, ou qu'il nous rend comme manipulés, si vous voulez, ce qu'on a appelé l'argument de la manipulation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pertinente entre le fait d'être manipulé par un agent qui aurait créé nos conditions initiales de vie et le fait d'être déterminé par des causes non intentionnelles, mais tout autant déterminées par le passé lointain. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'argument de la manipulation, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'argument incompatibiliste le plus défendu et considéré comme le plus problématique par les compatibilistes, à ma connaissance, ce n'est plus l'argument de la conséquence de Fanning Wagon, mais plutôt l'argument de la manipulation de Pereboom. Deuxième diversification dans les années 90, sont apparues également de nouvelles formes de libertarianisme, et notamment une distinction importante entre les libertariens qu'on a appelés les libertariens de la causalité agentive ou de la causalité de l'agent, et les donc ça c'est quelqu'un comme Timothy O'Connor, et les libertariens de la causalité événementielle, comme Robert Kane, dont il a déjà été question. Alors là, le livre de Kane n'est pas traduit en français, s'appelle The Significance of Free Will, publié en 1996. Je ne vais pas non plus entrer dans le détail sur cette distinction-là entre ces deux types de libertarianisme. En gros, c'est deux conceptions de la causalité assez différentes. Dans la causalité de l'agent, il s'agit de dire que je ne suis pas causé, mon action n'est pas causée par des événements comme mes désirs et mes croyances, par exemple. Mon action, elle est causée non pas par un événement antérieur à l'action, mais par une chose, par une substance, c'est-à-dire par moi. Alors que dans une conception plus traditionnelle, ce qui peut être une cause, notre concept de cause, c'est le concept d'un événement qui cause un autre événement. Donc, cette conception de la causalité de l'agent semble introduire un nouveau sens de la relation causale, qui n'est plus une relation entre des événements, mais une relation entre des choses et des événements que ces choses produisent. C'est une conception qui se rattache, qui est ancienne historiquement, qui se rattache au moins à Thomas Reid, à l'époque des Lumières écossaises, et qui, au-delà de ça, se rattache aussi à l'idée d'Aristote selon laquelle la pierre est mue par le bâton qui est mu par l'homme. On dit la pierre est mue par le bâton qui est mu par l'homme, c'est-à-dire que le terme ultime de la relation causale, c'est pas le mouvement de l'homme, c'est l'homme lui-même comme substance qui cause ce qui arrive au bâton ou ce qui arrive à la pierre. Voilà pour la causalité de l'agent. La causalité événementielle dit tout à fait autre chose. Elle dit que non, il n'y a qu'une seule forme de causalité dans le monde, c'est la causalité par les événements. Un événement en cause un autre. Mais comme il a déjà été remarqué dans deux exposés au cours de cette journée, dire qu'un événement 1 ou A cause un événement B, ça n'implique pas du tout de dire que l'événement A détermine l'événement B. Et alors ça, c'est une remarque qui a été faite très très tôt dans le débat analytique sur le libre-arbitre, en tout cas à l'échelle de l'histoire analytique, au moins par Elisabeth Anscombe, qui a contesté ce dogme humien selon lequel la notion de cause, c'est la notion de détermination. Et Anscombe a fait remarquer qu'on peut tout à fait comprendre que le choc du ballon dans la vitre a causé le bris de la vitre, même si on supposait que le même choc de ballon aurait pu ne pas causer le bris de la vitre. On peut très bien comprendre ce que c'est que la relation causale entre ces deux événements sans supposer que cet événement est déterministe. Et évidemment, la physique quantique a apporté une sorte de poids empirique à cette idée-là, puisque la physique quantique, dans certaines interprétations au moins, semble présenter exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont causés d'une manière naturelle parfaitement normale, mais qui ne sont pas déterminés par leur cause antécédente. Donc ils sont causés et non déterminés. Si on accepte qu'il peut y avoir des événements qui sont causés et non déterminés, alors il se pourrait très bien que nos actions, de la même façon, soient causées par nos désirs et nos croyances, sans être déterminées par nos désirs et nos croyances. Donc on peut très bien essayer de défendre, une conception libertarienne dans laquelle nos actions ne sont pas déterminées, et néanmoins dans laquelle nos actions sont causées par des événements antérieurs. Voilà pour les distinctions. Alors, on pourrait entrer dans la question de savoir est-ce que le libertarianisme de la causalité de l'agent peut avoir des liens avec la question, avec les données neuroscientifiques. Je pense que c'est une question difficile, et celle dont, là, c'est pas la question dont je vais parler. Là, ce dont je vais parler, c'est la manière dont les défenseurs de la causalité événementielle, donc comme Robert Kane, sont confrontés à la question des données neuroscientifiques. En fait, donc c'est ça le point de la deuxième partie, quelle est la place des indéterminismes neuronaux dans une position libertarienne événementielle. Alors, le problème, en fait, une position événementielle comme celle de Robert Kane est confrontée à un problème général, si on veut, mais qui se subdivise en deux problèmes qu'il faut bien distinguer. Le premier problème que j'appelle le problème d'intelligibilité empirique, c'est le problème qui consiste à dire, enfin c'est une réaction que beaucoup de gens ont spontanément, que j'ai eu moi-même en rencontrant d'abord les idées d'influence de la mécanique quantique, indéterminisme de la mécanique quantique dans la discussion sur le libre arbitre. La réaction que beaucoup de gens ont spontanément, c'est mais qu'est-ce que les indéterminismes quantiques des particules élémentaires peuvent avoir à faire avec la liberté humaine, qui semble être quelque chose d'un tout autre ordre, et en tout cas d'un tout autre niveau ontologique, du niveau macroscopique, alors que les indéterminismes quantiques, c'est juste des choses, des événements hasardeux qui se placent au niveau des particules élémentaires. Donc on peut avoir le sentiment que ces deux ordres de choses absolument, radicalement distincts, et qu'il n'y a vraiment aucune raison de penser que les indéterminismes quantiques pourraient aider ou rendre possible le libre-arbitre. Deuxième argument, qu'à mon avis il faut distinguer, c'est le problème général de la chance ou du hasard. Ça, c'est un problème qui n'est pas lié à des données neuroscientifiques ou à des connaissances scientifiques particulières que nous aurions sur l'être humain. Il est lié à aucune contingence, aucun fait contingent à propos de la constitution des êtres humains. C'est le problème général de savoir comment est-ce que le fait d'ajouter de l'indéterminisme dans un processus, dans une action, pourrait contribuer à la rendre plus libre, alors que l'indéterminisme semble ajouter du hasard. Et que ce qui est hasardeux n'est pas contrôlé, donc pas libre. Donc ça, c'est un problème qui est un problème a priori, qui ne dépend absolument pas des données empiriques que nous avons sur la nature des êtres humains. Et donc c'est pas sur ce problème-là que je vais porter mon attention. Je vais juste vous dire rapidement comment Kane y apporte une réponse, parce que sa réponse à ce problème-là général, enfin problème a priori, va être réutilisée après dans la réponse au premier problème. Mais j'irai pas dans les détails, et si vous voulez, on pourra en discuter après. Alors, juste, donc la réponse de Kane au problème de la chance consiste à présenter des scénarios de conflit moral ou de conflit prudentiel. Pour aller plus vite, je vais juste présenter le conflit moral. Donc il dit, imaginez une femme, c'est sur le polycopier, imaginez une femme qui est en chemin pour se rendre à une réunion commerciale importante et qui est témoin d'une agression dans une allée, devrait-elle s'arrêter et appeler de l'aide ou bien presser le pas pour éviter de manquer une vente qui serait décisive pour sa carrière? Donc là l'idée est simple, cette femme d'affaires est confrontée à deux motifs, un motif moral qui l'amènerait à s'arrêter pour aider la personne agressée, et un motif d'intérêt individuel, d'intérêt égoïste, qui lui donne le désir de presser le pas pour réussir la vente commerciale importante pour elle. Donc il y a deux motifs concurrents, deux motifs qui sont d'ordre différent et donc non commensurables l'un à l'autre. de telle sorte que la seule chose qui peut résoudre le problème de ce conflit de motifs est une décision de sa part. Chacun des deux choix, notez-le bien, sera rationnel, sera fait pour un motif, et non pas hasardeux. Si elle choisit, si elle fait le choix moral, elle l'aura fait pour des raisons morales qui étaient ses raisons, et donc elle sera vraiment motivée et elle agira sur la base de ses raisons. Si elle fait le choix égoïste, elle l'aura fait également pour des raisons rationnelles, pour des motifs qu'elle avait et qui ont mené à son action. Le fait d'ajouter dans le tableau l'indéterminisme entre ces deux motifs n'empêche pas que son action est contrôlée par ses raisons et donc qu'elle est libre dans un sens simple. Mais en revanche, le fait qu'elle soit libre, qu'il y ait indéterminisme ajoute une forme de contrôle à son action, qui est le contrôle entre deux alternatives qu'elle n'aurait pas si elle n'avait que le motif moral, par exemple, sans le désir d'aller à sa réunion. Donc voilà la solution de Keynes. Je l'ai mise de façon plus développée en dessous. C'est le principe d'un contrôle rationnel dual. Supposons que l'agent S est en train de délibérer entre faire l'action A et faire l'action B. Il a un bon motif de faire A et un bon motif de faire B, et les deux motifs sont incommensurables, par exemple un motif moral et un motif d'intérêt personnel, de telle sorte que le choix ne peut revenir qu'à sa décision. Supposons que les deux issues sont réellement possibles, c'est-à-dire qu'on est en cas d'indéterminisme. S'il fait A, il le fera de manière volontaire et contrôlée, car son motif en aura été la cause. S'il fait B, il le fera aussi de manière volontaire et contrôlée, car son autre motif en aura été la cause. Donc l'indéterminisme ne diminue pas son contrôle, et au contraire augmente sa liberté, lui donne un contrôle des alternatives, en plus du contrôle rationnel. Voilà la réponse de Keynes, une partie de la réponse de Keynes à l'argument de la chance. Le fait d'ajouter de l'indéterminisme au tableau ne diminue pas le contrôle, au contraire, ça augmente le contrôle.
La chance au sens de hasard.
Oui.
Ah oui, pas la chance.
Oui.
La chance.
C'est ça, mais en anglais c'est luck, donc absolument. Alors, reste le deuxième problème, le problème d'intelligibilité empirique. Peut-être que certains indéterminismes peuvent favoriser le libre-arbitre, mais comment est-ce que les indéterminismes quantiques pourraient avoir quelque chose à voir avec la liberté? Alors, je vais voir une série de quatre objections. Première objection, très rapide, consiste à dire que la mécanique quantique, en réalité, n'est pas indéterministe, qu'il y a des interprétations déterministes de la mécanique quantique, et certains connaissent peut-être les interprétations d'Everett ou l'interprétation de Bohm. Là, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, sur lequel, en plus, je suis pas compétent. Ce que je vois, d'après ce que disent des théoriciens sur la question, c'est que en réalité, il n'y a aucune donnée empirique aujourd'hui qui permettent de trancher entre des interprétations déterministes et des interprétations indéterministes de la mécanique quantique. Dans le cas de Bohm, je pense que c'est le consensus de la communauté scientifique, il n'y a aucune donnée pour trancher entre l'interprétation de Bohm et l'interprétation indéterministe. Dans le cas d'Everett, le cas est encore pire, car il semble qu'il serait absolument impossible, par principe, d'avoir les moindres données en faveur de cette interprétation. Donc, je laisserai cette objection de côté comme une question qui est absolument indécidable aujourd'hui pour des raisons scientifiques. Deuxième objection, à supposer qu'il y ait des indéterminismes quantiques microscopiques, ces indéterminismes microscopiques deviennent statistiquement négligeables au niveau neuronal et macroscopique. Alors là, c'est une objection qu'il est important de comprendre, c'est-à-dire que si on distingue différents niveaux de la réalité, en différentes échelles, le niveau microscopique des particules élémentaires, ensuite le deuxième niveau, c'est le niveau du neurone, qui est, on pourrait dire, mésoscopique, et puis le niveau macroscopique de l'ensemble du cerveau, donc à l'échelle observable, à l'œil nu, il est très possible que des indéterminismes qui se situent au niveau microscopique soient annulés par un phénomène de physique statistique, de telle sorte que la somme d'un milliard de milliards de milliards d'atomes qui se comportent de manière indéterministe se comporte en fait à l'échelle où on l'observe, donc méso ou macroscopique, de manière virtuellement déterministe. C'est-à-dire qu'elle est déterminée par des lois à 99,999999%. Donc c'est, pour toute chose pratique, pour toute considération pratique, quelque chose qui est comme du déterminisme. Alors, la réponse à cette objection, alors évidemment, si c'était le cas, si nos actions étaient déterminées à 99,999999999% à cause de l'annulation par la physique statistique des indéterminismes quantiques, alors le libertarien ou l'incompatibiliste devrait conclure que nous n'avons pas de libre arbitre. La réponse, c'est que cette annulation ou cet effacement des indéterminismes microscopiques à aux échelles supérieures est une possibilité, mais ce n'est pas ce qui se passe dans tous les cas. Il y a, de manière évidente, des situations dans lesquelles les indéterminismes quantiques apparaissent au niveau macroscopique. La raison la plus évidente, c'est que si ça n'était pas le cas, on n'aurait pas de connaissance du fait qu'il y a des indéterminismes quantiques. Et donc, le phénomène de la mesure quantique, qui est une mesure à l'échelle macroscopique par le physicien de quelque chose qu'il ne peut pas prédire le résultat, est un phénomène macroscopique qui est indéterministe à cause de l'indéterminisme d'un phénomène microscopique quantique. Donc là, il y a bien une propagation de l'indéterminisme microscopique au niveau macroscopique. Voilà. Donc il peut y avoir ce phénomène de propagation. Comment ? Eh bien, la réponse, c'est il faut un système chaotique. Un système chaotique, c'est un système qui est, pour le dire dans la terminologie habituelle, qui est sensible aux conditions initiales, question de sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'il y a des toutes petites différences dans les conditions initiales, y compris des différences microscopiques dans les conditions initiales, peuvent avoir des conséquences énormes dans l'état final. Et donc, il peut, dans un système chaotique, il y avoir une propagation d'indéterminisme quantique aux échelles supérieures. Je crois que je n'ai plus que 5 minutes, c'est ça ?
Oui, à peine, oui.
À peine.
Plus que 10 minutes, enfin bon, mettons 4 minutes.
Alors, je pense que je ne vais pas parler de Libet, du coup, parce que en plus que j'aurais en dire, serait assez dans la même ligne que ce qui a déjà été dit. Je vais quand même prendre les 4 minutes qui restent pour vous présenter comment Kane à élaborer un modèle qui permette de penser que les indéterminismes quantiques se propagent au niveau de l'action volontaire. La première chose, en fait, il y a deux étapes qui sont nécessaires. Je vous ai dit, il y a trois niveaux, le niveau quantique, le niveau des neurones, et le niveau, enfin, des neurones individuels, et le niveau de l'ensemble du cerveau. Il faut qu'il y ait un phénomène chaotique qui propage l'indéterminisme quantique au niveau d'un indéterminisme neuronal. Et il faut ensuite un deuxième système chaotique qui fasse propager l'indéterminisme du neurone à l'ensemble du cerveau. Pour le premier niveau, je vous ai mis deux citations sur le polycopier que je ne vais pas lire, mais deux citations de neurobiologistes qui, répondant en particulier à Mark Balaguer, qui est un autre défenseur de ce genre de conception du libre-arbitre, lui ont dit que, tout simplement, certains aspects du fonctionnement d'un neurone individuel, j'en mentionnerai qu'un, c'est le transfert des neurotransmetteurs synaptiques, le fait que des neurotransmetteurs soient déchargés ou non dans la zone intersynaptique entre deux neurones n'est pas déterministe, n'est pas traitable avec des lois neuroscientifique déterministe. Ce qui ne veut pas dire directement que c'est un déterminisme, mais qu'au niveau du neurone, on n'a pas de loi déterministe. On n'a que des lois probabilistes. Et ce que disent ces neuroscientifiques que j'ai mis sur le polycopier, c'est qu'on n'a aucune raison de penser aujourd'hui que ce probabilisme qu'on a au niveau du neurone repose en réalité sur un déterminisme plus profond. En réalité, il se pourrait très bien que ce probabilisme au niveau du neurone reflète ou soit la propagation d'un indéterminisme réel, quantique, au niveau du neurone. Deuxième niveau, si on accepte que les neurones ont réellement un fonctionnement indéterministe, comment est-ce que ça se propage au niveau d'une action macroscopique et au niveau, en tout cas, du cerveau dans son ensemble? Là, Kane a utilisé la théorie de Globus, qui est un autre neuroscientifique, la théorie des réseaux neuronaux, qui consiste à dire que les réseaux neuronaux sont des systèmes de neurones qui ont un fonctionnement chaotique parce qu'un fonctionnement holiste dans lequel l'ensemble du système dépend de chacun des neurones en même temps que chacun des neurones dépend du système. Et donc là, on a un certain type de fonctionnement neuronal qui proposerait les conditions de chaos nécessaires pour qu'il y ait une propagation au niveau du cerveau des indéterminismes quantiques. Troisième condition dans le modèle de Kane, il faudrait aussi que ces réseaux neuronaux soient chaotiques, en particulier au moment du choix ou de la décision, et du choix difficile comme le choix de notre femme d'affaires tout à l'heure, lorsque une personne a deux motifs conflictuels. Kane imagine que ces deux motifs pourraient être représentés par deux réseaux neuronaux interconnectés dont la concurrence provoquerait des conditions qui favorisent une situation de chaos dans le système neuronal, de telle sorte que ce serait justement en vertu de la conflictualité des motifs qu'il y aurait une propagation, un indéterminisme réel dans le choix. Et donc si l'ensemble de ces conditions sont réunies, alors on aura un indéterminisme réel de l'action dans lequel les indéterminismes quantiques ont joué un rôle décisif, ont rendu possible cet indéterminisme réel. La dernière objection qu'on fait à ce modèle, c'est de dire mais c'est un modèle qui est complètement gratuit ou spéculatif, on n'a aucune donnée qui permette d'établir la vérité de ce modèle. Alors de façon amusante, c'est exactement ce que disent Mark Balagher et Kane, c'est que du coup effectivement oui c'est spéculatif, la seule chose qu'on a fait c'est montrer ce que les scientifiques devraient chercher s'ils veulent chercher de libre arbitre, mais pour l'instant nous n'avons aucune réponse à la question de savoir si nous sommes libres ou non. La réponse que moi je défends, c'est que on pourrait imaginer que notre expérience du libre-arbitre soit un détecteur de ces systèmes neuronaux chaotiques dont Kane parle, de telle sorte que notre expérience du libre-arbitre serait un détecteur réel d'un phénomène qui est toujours connecté à une forme d'indéterminisme réel. Et si c'était le cas, alors, d'après une théorie épistémologique que j'essaie de défendre, ça voudrait dire que notre expérience du libre-arbitre peut être une source de connaissance fiable de l'indéterminisme réel de nos actions.